Chapitre 13. La maison Richer, de construction récente, était la dernière de Criquefleur, du côté de Saint-Maclou. Bâtie par un spéculateur qui l'habitait au beau milieu de terrains vagues qu'il appelait dans ses annonces les terrains de l'avenir, sans doute parce que, dans le présent, on n'y trouvait que des touffes des limes et de chardons bleus, poussés à grand-peine dans le sable et façonnés çà et là de quelques guirlandes de liseron rose. C'était la solitude de ce quartier qu'il avait fait choisir par Sélanie. Marichette et Paulin pourraient s'expliquer en toute sécurité sans craindre les gêneurs. Et si, après cette explication, ils avaient l'envie de se jeter dans les bras l'un de l'autre pour sceller leur réconciliation, ils trouveraient le long de la grève sablonneuse un dédale de rochers éboulés au milieu desquels ils auraient la liberté de s'embrasser aussi longuement, aussi étroitement qu'ils voudraient. L'endroit était à souhait pour des amoureux, et comme, après cette scène, il serait assurément dans un état à perdre la tête, il était à espérer qu'il la perdrait. Si idiote que fût l'idiote, elle avait dû comprendre ce qu'on s'était donné la peine de lui expliquer. Avant 3 heures, Paulin arrivait dans les rochers, et, comme la mer baissait, il s'y installait derrière un bloc couvert de goémons, de façon à embrasser toute la grève, depuis l'église de Criquefleur jusqu'à la maison Richer. De sa place, il voyait toute la rangée de maisons alignées au bord du rivage, et personne ne pouvait paraître sur la levée de terre qui les bordait sans qu'aussitôt il le vît. Quant à lui, caché dans les rochers, avec lesquels ses vêtements sombres se confondaient, on ne pouvait l'apercevoir qu'en arrivant à une courte distance. Le matin, en se levant, il avait trouvé le ciel chargé de gros nuages que roulait le vent de l'ouest et il s'était demandé avec angoisse si Madame Belloc pourrait sortir avec Marichette. Mais peu à peu, le vent avait emporté les nuages et maintenant, il faisait une belle journée, chaude et calme, qui invitait à la promenade. Rien ne les empêcherait de sortir, ils n'avaient qu'à attendre. Et il attendait, en écoutant les heures sonner à l'église, en regardant la mer briser au loin sur le sable qu'elle découvrait. Il ne se sentait aucune impatience, sans doute parce qu'il n'avait aucune inquiétude au cœur. Elle allait venir, leurs regards allaient se joindre, et tout serait oublié. Quelle brave femme que Madame Belloc, et comme on était injuste envers elle! Le quart, la demi, les trois quarts sonnèrent au clocher. Un peu avant 4 heures, il vit au loin 2 ombrelles, l'une blanche, l'autre noire, apparaître sur le talus. La distance était trop grande pour qu'il reconnût les tournures et les visages. Cependant, il n'eut pas un moment de doute, c'était elle. En même temps, un chien noir et blanc s'élança en courant sur la grève, c'était Psit. Encore un quart d'heure, quelques minutes, et elle serait près de lui. Maintenant, il les voyait distinctement. Marichette, habillée de son éternelle robe noire et coiffée d'un chapeau de paille noire aussi, marchait auprès de sa tante, la tête baissée, tandis que Madame Belloquet remuait tête et bras, gesticulant en femme qui s'était engagée dans une conversation animée. Au loin, Psit aboyait après les vagues, les poursuivant quand elles se retiraient, se sauvant quand elles arrivaient sur lui. À l'exception de pêcheurs qui fouillaient le sable pour chercher des vers, et d'ouvriers qui circulaient sur un talus, ils ne voyaient personne qui pût les déranger quand il aurait abordé Marichette. Lorsqu'elles arrivèrent devant la maison Richer, il vit Madame Belloquet s'arrêter et adresser à Marichette une mimique sur laquelle il n'y avait pas à se tromper. « Continue la promenade, va t'asseoir dans les rochers, je te reprendrai là en sortant. » Et elle entra. Bien qu'il eût les yeux attachés sur Marichette, son attention fut attirée sur la grève. C'était Psit qui accourait au galop en poussant des cris de joie. Sans doute, il avait senti et il venait à lui. Les soupçons de Marichette n'allaient-ils pas être éveillés? Elle continua d'avancer et comme Psit arrivait, il lui ferma la gueule d'une main en le flattant de l'autre. Elle s'était approchée des rochers, elle les touchait. Il se montra brusquement et avant qu'elle pût faire un mouvement en arrière, il lui prit les deux mains dans les siennes. « Marichette, chère Marichette !»«
Vous ? Oh, Paulin, je vous en prie !»
Elle voulut se dégager et comme il ne desserrait pas les doigts, elle détourna la tête pour cacher son visage.
« Je vous avais demandé, je vous avais prié de ne pas me revoir !»
murmura-t-elle. Eh quoi ? S'écria-t-il désespéré. Voilà l'effet que ma voix produit sur votre cœur. Je tiens vos mains dans les miennes, vous voulez dégager les vôtres. Je vous regarde, vous détournez les yeux.
Vous voulez donc que je meure de honte devant vous ?
Je veux que vous m'écoutiez, je veux que vous me regardiez. Elle continua de détourner la tête, résistant toujours aux mains qui la pressaient et l'attiraient. Paulin avait cru au prestige de l'homme aimé dont lui avait parlé Madame Belloquet, et avec la foi en son amour que ni cette fuite ni cette lettre n'avaient atteinte, il s'était imaginé qu'il n'aurait qu'un mot à dire pour qu'elle tombât dans ses bras. Cette résistance le stupéfiait autant qu'elle le désespérait, mais elle ne le décourageait pas. Si sa voix, si ses regards n'avaient pas produit l'effet sur lequel il avait compté, il parlerait et elle l'écouterait. « C'est parce que je n'ai pas obéi à votre lettre que vous êtes fâchée, » dit-il tendrement.
« Je vous avais tant prié. »
« J'ai voulu vous obéir. En recevant votre lettre, ma première pensée a été, si affreuse que fût ma douleur, de ne pas chercher à vous voir. Je n'ai pas pu. C'est malgré moi que je me suis mise en route pour Criquefleur. Mes jambes me portaient. C'est malgré moi que je suis entrée chez Madame Sylvain Belloc, en me disant encore, au moment où je franchissais le seuil, je n'entrerai pas.
Mais aujourd'hui,
j'ai vu votre cousine hier.
C'est elle.
Oui, c'est elle qui m'a conseillé de me trouver aujourd'hui sur votre passage pour vous dire ce que vous n'avez pas voulu entendre hier. Vous voyez donc que c'est avec l'approbation de votre cousine que je parle. Marichette murmura quelques mots étouffés que Paulin n'entendit pas. Et cette approbation, mieux que tout, mieux que mes paroles, doit vous faire comprendre combien sont vaines les craintes qui ont inspiré votre refus de me voir et qui maintenant rendent votre attitude contrainte quand elle devrait être pleine d'élan et de tendresse.
Vaines ! Oh mon Dieu !
Oui, vaines ! Vaines aux yeux de votre cousine, qui est une femme de sens et d'expérience, vaines aux miens.
Les vôtres !
Voulez-vous donc m'obliger à vous dire que je sais tout ? Ce fut un cri de douleur et de désespoir qui s'échappa de la gorge de Marichette. Je vous jure que je n'ai rien demandé, que je n'ai rien cherché à savoir et que j'ai voulu vous obéir. Mais je n'ai pas pu fermer mes oreilles aux paroles de votre cousine. Et c'est parce que vous craignez les calomnies du monde à propos des poursuites de cet homme, à propos de votre séjour chez lui, à propos de votre fuite, que vous me repousseriez. Vous auriez peur de ce qu'on me dirait, de ce que je penserai plus tard quand je serai votre mari. Parce que cet homme a voulu, la nuit, entrer dans votre chambre, parce qu'il a escaladé votre fenêtre, parce qu'il a cassé une vitre, vous seriez déshonoré. Mais quelle idée vous faites-vous donc de moi, de mon amour, de ma foi en vous ? C'était cela qu'il appelait savoir tout. Fallait-il donc qu'à la demi-vérité avouée par sa cousine, elle ajoutât maintenant la vérité entière ? Fallait-il qu'après avoir sacrifié son amour et sacrifié celui de Paulin pour ne pas confesser sa honte, elle la confessât maintenant ? Fallait-il qu'après avoir voulu lui épargner cette douleur, elle la lui infligeât maintenant brutalement ? Jamais elle n'en aurait la force. Et cependant, elle devait répondre. Elle ramena les yeux sur lui et pendant plusieurs minutes, ils restèrent sans parler, se regardant. « Vous m'aimez !» s'écria Paulin. « Et ce que vos lèvres veulent taire, vos yeux le disent. »«
Oui, je vous aime et je n'ai jamais cessé de vous aimer. Je vous aime d'un cœur plus rempli de gratitude, de tendresse, de passion qu'il ne l'a jamais été. » Voilà ce qu'il faut que vous sachiez, et au lieu d'être fâchée de ce que vous avez cherché à me revoir, j'en suis heureuse et je vous en remercie, puisque je puis vous dire ces paroles qui doivent rester dans votre cœur, quoi qu'il advienne. Je vous aime. Mais ne m'en demandez pas davantage, cher Paulin. Ne me demandez pas de parler, ne me demandez pas de vous répondre, ne demandez rien ni à moi ni à personne, au moins en ce moment. Cette lettre n'a pas été écrite à la légère, chaque mot en a été posé. Ce que vous avez appris ne peut pas la changer. Nous ne devons pas nous voir, c'est le sacrifice que j'implore de vous. Si grand, si cruel qu'il soit, ne me le refusez pas, et je vous jure que si les circonstances nous sont... que quand les circonstances nous seront plus favorables, je serai la première à vous rappeler nos jours de bonheur. Jusque-là, pensez à moi comme si j'étais loin de vous, embarquée sur cette mer pour un voyage. Me le refuserez-vous ? Je ne vous refuserai pas ma vie si vous me la demandiez. »